Et notre invité ce matin dans le 8-30, Jean-Pierre Sérus, bonjour.
Bonjour.
Vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en charge des transports. Avant de revenir sur votre compétence qui est large, qui est importante dans nos territoires alpins, revenons tout d'abord sur ce slogan « Le soleil se lève au sud », nouveau slogan de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'était nécessaire ce nouveau slogan ou est-ce que c'est juste un coup de com'?
Écoutez, c'est nécessaire, évidemment, puisque nous avons d'abord le démarrage d'une saison touristique et c'est toujours important de rappeler quels sont les atouts de notre région et ils sont très nombreux. Et puis, ça correspond à une volonté sans cesse affirmée de Renaud Muselier, de notre exécutif avec lui, de rappeler aux Alpins, aux Provençaux, aux Azuréens, combien notre région a des atouts et combien il est important que cette dynamique que nous impulsons soit finalement reprise par l'ensemble des 5 millions d'habitants de notre région.
Alors, vous avez été interpellé hier par une référente APF France Handicap dans les Hautes-Alpes et en région, c'est Catherine Duroc. Elle a lancé une traversée la semaine dernière en autostop et en fauteuil roulant depuis Briançon jusqu'à Nice. Elle le dit aujourd'hui, on est entendu, on est écouté par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais il y a des efforts à faire encore dans l'accessibilité. Tous les moyens de transport ne sont pas adaptés et les gares ne sont pas accessibles. Il y a à peu près 150 gares en région, 23 sont accessibles, dont 4 dans les Hautes-Alpes. Il y a encore un gros effort à faire en matière de handicap, Jean-Pierre Sérus.
Je suis tout à fait d'accord sur le fait que nous avons encore à travailler. Je me félicite, et je crois Catherine Duroc avec nous, des échanges que nous avons avec France Handicap. Nous allons d'ailleurs signer une importante charte, ça fera l'objet d'une délibération à la prochaine assemblée plénière du Conseil régional. Le sujet de l'accessibilité, chacun le sait, c'est un chantier, un travail de très longue haleine. Et d'ailleurs, j'ai reçu Catherine Duroc le 26 avril dernier, en tout début d'après-midi, à sa demande. Je l'ai d'abord félicité avec ses collègues, puisqu'ils nous avaient amené dès le 26, 14 heures, un compte rendu des 13 binômes qui avaient sillonné la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et mesuré là où il y avait des choses qui vont bien et là où il y a des choses qui vont moins bien. Et donc, nous sommes dans une démarche concertée d'amélioration.
Et donc, cette concertation pourra mener à des transports qui soient accessibles rapidement ?
Les transports sont accessibles dans un grand nombre de cas. On a abordé le problème des autocars. Aujourd'hui, les autocars, dans la grande majorité, sont équipés. Les chauffeurs, les conducteurs sont formés. Il y a encore des choses à améliorer. En ce qui concerne le TER, les trains express régionaux, nous avons lancé une vague importante de mise en accessibilité de gare. Ça ne concernait pas, conformément aux agendas d'accessibilité programmés des gares, ça ne concernait pas toutes les gares, ça concernait un certain nombre de gares. Tout ça a été conforme à la réglementation et à la concertation d'ailleurs avec l'ensemble des acteurs. Nous avons, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pris la décision d'aller au-delà de la loi, au-delà de la réglementation en ce qui concerne l'acheminement d'usagers qui habitent près d'une gare qui n'est pas accessible pour se rendre à une gare accessible. Voilà, nous sommes dans une démarche de progrès. Il y a encore des choses qui ne vont pas et nous les regardons avec la responsabilité que chacun nous connaît et nous avançons, notamment avec France Handicap, pour améliorer les choses.
Oui. Alors parlons justement des lignes TER qui pourraient être ouvertes à la concurrence dans les prochaines années. Alors on sait qu'il y a la ligne Marseille-Nice hein, qui a été confiée à l'opérateur Transdev dès 2025. Mais aujourd'hui, la région envisage d'aller un peu plus loin, d'ouvrir de nouvelles lignes de TER à la concurrence, notamment dans les Alpes du Sud, Marseille-Gap-Briançon, Briançon-Gap-Valence. Roman, ça va commencer quand la procédure et vous espérez combien de candidatures?
Alors, je commence par répondre à la deuxième partie de votre question. Nous attendons le plus grand nombre possible de concurrents, l'ouverture à la concurrence. Là aussi, on est dans le ressort de la dynamique. Plus nous aurons de concurrents qui présenteront une offre, évidemment, plus notre opération nous satisfera. En ce qui concerne donc le début de votre question, effectivement, nous avons pris la décision, ça a été officialisé le 15 février dernier, de donner une information à l'échelle européenne sur la volonté de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de mettre en concurrence au mois de février 2024, c'est-à-dire l'année prochaine, deux lots. Les deux lots correspondent, le premier à celui que vous avez décrit, que l'on peut appeler ce qui est Ouest-Provence et Alpes, et puis un deuxième lot, Est-Provence et Alpes, excusez-moi, et puis un deuxième lot Ouest-Provence pour toutes les lignes qu'il y a entre Marseille, Arles, Avignon, en passant par la Côte Bleue, en passant par Avignon, Avignon Carpentras, etc., etc. Au total, au mois de février 2024, nous mettons en concurrence la partie du réseau que nous n'avions pas mis en concurrence précédemment. Vous le savez, il y a eu deux lots attribués. Ça représentait 30% de notre offre régionale de TER. Là, c'est 70% répartis également sur ce lot Ouest-Est-Provence et Alpes et sur le lot Ouest-Provence.
Mais l'exploitation n'est pas prévue pour février 2024, hein, ce sera
Ah, pas du
encore
tout.
5 années après, hein, l'exploitation prévue par le concurrent.
Il faut du temps d'abord pour que les candidats remettent les offres, ensuite pour que nous les analysions, que nous prenions la décision, et ensuite il y a toute une partie transition, organisation, celle que nous
Oui.
vivons d'ailleurs sur les premiers lots que je viens d'écrire.
Vous
Ça sera
êtes.
vraiment pour la fin de la décennie, 2029-2030.
Vous attendez quoi justement de ces privés qui vont candidater? Quelles promesses doivent-ils vous faire pour le
Ah,
réseau?
alors, ce ne sont pas des promesses, ce sont des engagements,
Oui.
puisque ce sont des engagements. Voilà, ce que nous attendons, c'est plus de qualité, plus d'offres, plus de régularité, plus de fiabilité. Et de l'ensemble des candidats, lors de la première partie de notre, la première vague d'ouverture à la concurrence, où la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été pionnière en la matière, je vous rappelle que SNCF Voyageurs a répondu au travers d'une de ses filiales, et d'ailleurs, elle a fait une excellente offre, puisqu'elle a gagné le lot numéro 2, qui était le lot le plus important des deux. Sur ce qu'on appelle l'étoile de Nice, où ils nous ont offert un engagement, où ils se sont engagés sur un nouveau contrat qui démarrera en 2025 et qui est très intéressant à la fois pour l'ensemble des usagers et également pour les finances de la région, puisque à coût équivalent et pour l'usager et pour la région, sur ce lot numéro 2 de l'étoile de Nice, nous aurons une augmentation de 75% du trafic.
Si je comprends bien, la SNCF, pour être efficace, doit être mise en concurrence.
Nous pensons que la concurrence a des vertus. Ça permet à chacun de se remettre en cause. Je vous rappelle que c'est un service public, c'est un service public régional. Plus de 80% des dépenses sont assurées par le budget régional. Ce que nous faisons, c'est une ouverture à la concurrence de l'opérateur. Nous avons formaté des lots de manière à ce que les opérateurs retenus aient leur propre site de maintenance et nous travaillons avec SNCF Réseau et des réseaux qui soient parfaitement homogènes, de manière à ce que les opérateurs, que ce soit l'opérateur historique, que ce soit de nouveaux opérateurs, et toutes les atouts en main pour pouvoir proposer à l'autorité organisatrice, au service public que nous sommes, la meilleure offre possible.
La meilleure offre possible. Les syndicats sont quand même assez inquiets. Ils ont manifesté d'ailleurs devant la région. Ce qu'ils disent, c'est avec l'État, au moins, on limite la casse, et notamment au niveau des prix, de l'entretien, etc. Quel contrôle la région va assurer sur cette ouverture à la concurrence?
Un contrôle absolument responsable. Nous avons, je pense, une institution régionale qui est parfaitement responsable, parfaitement organisée, parfaitement équipée pour veiller à ce que les engagements des opérateurs, quels qu'ils soient, soient respectés. Voilà. Nous travaillons d'ailleurs actuellement sur cette phase de transition, sur les deux premiers lots qui ont été ouverts à la concurrence, et je peux vous assurer, il y aura d'ailleurs un comité de pilotage de cette phase de transition dans quelques jours, et je peux vous assurer que point par point, nous veillons que tout soit mis en œuvre. Actuellement, les opérateurs SNCF Sud Azur sur le lot numéro 2, Transdev sur le lot numéro 1, sont en train de réaliser, de construire leur centre de maintenance. Ils sont en train d'organiser les opérations de transfert des personnels, puisque tout ça est organisé. Alors, j'entends, et d'ailleurs, je suis en relation avec avec les syndicats, avec les représentants du personnel. J'entends que des questions se posent, j'entends même qu'il y ait une certaine inquiétude. Notre rôle et notre mission d'autorité organisatrice des transports, c'est de faire ça avec le plus grand sérieux possible, mais encore une fois, dans l'intérêt des 5 millions d'habitants, dans l'intérêt des visiteurs qui viennent nous voir, et dans l'intérêt également de l'institution régionale et de son budget et des contribuables qui, je le rappelle, assurent 80% puisque c'est de la dépense, puisque c'est un service public.
Alors, y aura-t-il un train pendulaire à l'année dans les Hautes-Alpes? C'était l'annonce en novembre dernier de Chantal Emeaude, hein, vice-présidente également de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, maire d'Embrun, on le rappelle aussi. Elle le disait, hein, cette ligne, elle ne sera pas que touristique, elle sera régulière à l'année. Il faut encore attendre un petit peu, 2024-2025, avec des tests qui seront menés sur plusieurs tronçons. Où en est-on de ce projet aujourd'hui de train pendulaire dans les Hautes-Alpes? Est-ce qu'on sait d'où il va partir? Est-ce qu'il ira de Vesle
Alors, il y
jusqu'à
a trois.
Briançon?
On n'est pas encore à ce niveau de définition. Il y a trois sujets. Il y a un premier sujet qui est d'abord la ligne elle-même. Vous le savez, on a une ligne unique. Aujourd'hui, la capacité de nouveaux trains sur cette ligne, compte tenu de la ligne, compte tenu du système de signalisation, n'est pas suffisante pour organiser les choses dans le sens de votre question. Après, il y a un deuxième sujet qui est au sujet de l'équilibre économique. Vous voyez que nous faisons les efforts qu'il convient de faire. Sur la ligne Briançon-Gap, nous avons rajouté un service cette année, comme nous nous étions engagés avec Chantal Emeaude, et c'est déjà une première étape. Je sais qu'elle satisfait beaucoup d'usagers. D'ailleurs, on a des progressions en termes de fréquentation qui sont tout à fait intéressantes. Et puis, évidemment, troisième sujet, nous sommes en train de reformater, d'améliorer l'ensemble des services de la région. Vous savez, on déploie avec les territoires, dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités, de la coordination dans chacun des bassins de mobilité, et nous associons évidemment l'autocar, le train et tous les modes de déplacement. Donc aujourd'hui, on ne peut plus raisonner en disant ce service, c'est celui qu'il faut, et ne pas intégrer la réflexion et la concertation avec les territoires, avec les élus, avec les usagers, avec l'économie locale et avec les associations, sans coordonner tout ça. Donc voilà, nous sommes au travail. Nous avons déjà fait un pas cette année, je le répète, avec ce nouveau service le matin entre Gap et Briançon, puis entre Briançon et Gap, puis Gap et Briançon. Et nous progressons. Vous savez, le mouvement, il est général et sans précédent. J'entends l'impatience. Il est sans précédent. Nous
En tout cas,
investissons comme nous n'avons jamais investi.
vous vous engagez pas autant que ce que Chantal Emeaude l'avait fait en novembre dernier sur ce train.
Je suis parfaitement solidaire de Chantal Emeaude, je connais les difficultés du trafic routier, en particulier pendant la saison touristique, et je sais quelle est la situation également les week-ends de la saison d'hiver. Nous sommes totalement solidaires. Simplement, ce sont des sujets qui nécessitent beaucoup d'attention. J'entends l'impatience. Je souhaite que tout le monde comprenne que nous sommes dans un mouvement sans précédent, à la fois un investissement et à la fois en fonctionnement. Le président Muselier a suffisamment rappelé que la boussole principale de nos politiques, c'est celle de notre plan climat, c'est celle de la transition écologique, notre volonté de garder une COP d'avance. À l'horizon de 2030, nous devrons avoir réduit de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre. Les transports représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de développer de l'offre. On a un véritable choc d'offre qui doit se préparer, mais tout ça doit se faire en respectant les étapes que je viens d'indiquer.
Donc, l'étude de faisabilité va être lancée.
Nous sommes dans une étude d'opportunité. Après, il y a des études de faisabilité. Je vous rappelle que sur la première partie, celle de l'infrastructure, nous allons investir en 2023 sur les infrastructures et essentiellement ferroviaires plus de 250 millions d'euros. Les décennies précédentes, ceux qui nous ont précédés, investissaient moins de 100 millions d'euros par an. Donc, nous sommes aujourd'hui déjà dans un rapport de 2,5 à 3 fois plus. Bon. Si je parle d'inertie, c'est que pour aménager des infrastructures ferroviaires, il faut des études importantes. Je vous rappelle que nous ne sommes ni propriétaires, ni maîtres d'ouvrage des installations. C'est SNCF Réseau qui a cette charge-là. Et je veux rappeler à tout le monde, avec beaucoup de raisons, d'ailleurs, il y a beaucoup dans les interlocuteurs que nous avons, des gens qui sont très au fait du fonctionnement des infrastructures ferroviaires. C'est un travail extrêmement sérieux, une ingénierie particulièrement importante en termes de sécurité, en termes de fiabilité. Tout ça prend du temps. Donc, on ne passe pas très rapidement, et tout le monde en est conscient, d'une idée à une décision et à une application.
Merci beaucoup Jean-Pierre Sirus d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1, vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en charge des transports. Merci.